Oui, donc je ne sais pas pourquoi j'ai choisi quelque chose sur les femmes. D'abord parce que peut-être qu'effectivement, on n'est pas très nombreux comme hommes, donc je me suis dit, il vaut mieux partir sur de bonnes bases, comme ça, bon.
C'est un sujet qui vous tient souvent à cœur. Quand même.
D'autant plus qu'il y a quelque chose qui est rigolo, enfin je sais pas, c'est que depuis quelque temps, je mets les vidéos de prédication, je les fais passer par YouTube, je sais pas si vous voyez ce que c'est pas très grave. Et dans YouTube, ils connaissent le sexe des gens. Alors, je sais absolument pas comment. C'est un mystère. Et leur âge. Je pense que, parce que Google sait tout, en fait. Sur vous, sur ce que vous achetez, sur où là vous êtes, bon. Et enfin bref, ils connaissent les âges et les sexes. Il y a 75% d'hommes et 25% de femmes qui regardent les vidéos de prédication sur le site. Incroyable. Et les gens ont entre 35 et 65 ans en majorité. Puis il y a aussi des gens qui en ont 80 et des gens qui sont jeunes.
Nous, on est présents.
Mais vous êtes présents. C'est encore mieux. Donc vous êtes dans les 25%. Enfin bref. Donc, c'est vrai que si vous voulez, j'ai un peu regardé en fait la liste des femmes. C'est vrai que si vous voulez, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, hein, je me suis concentré sur les évangiles, pas les lettres de Paul ou je sais pas quoi. Les évangiles. Dans les évangiles, en fait, quand on regarde, il n'y a pas énormément de personnages de premier plan, à part Jésus, bien sûr. Dans l'Ancien Testament, vous voyez, il y a la saga d'Abraham, il y a Sarah, après il y a Isaac, il y a plein de personnages. Dans les évangiles, ben, il y a Jésus en gros, quoi. Et puis il y a quelques personnages, ils ne sont pas extrêmement nombreux, les vrais personnages dont on connaît un peu la personnalité, qu'on voit parler plusieurs fois. Ben, les femmes quand même un peu, vous voyez. Il y a des hommes, il y a qui? Il y a Pierre, il y a Jean, il y a un petit peu... Oui.
Il y a Jean-Baptiste aussi.
Il y a Jean-Baptiste. Bonjour monsieur, bienvenue. Une petite feuille. Donc,
deuxième, parce que ma femme
a juste d'accord. Oui, donc il n'y a pas énormément de personnages de second rôle, j'allais dire. Mais il y a quand même pas mal de femmes, finalement. Alors, bien entendu. Bonjour, madame. Donc, il y a bien entendu Marie, hein, qui est au début, la mère de Jésus. Mais il y a d'autres personnages féminins. Et quand on regarde, finalement. Ah, une petite feuille pour. Ah bon ? Oui, pour. Quand on regarde, il y a les personnages masculins, si vous voulez, ils sont souvent un peu, ils sont un peu plus nombreux que le personnage féminin, mais souvent leur qualité est un peu discutable. Souvent, c'est les hommes qui critiquent, qui tendent des pièges à Jésus, même parmi les apôtres. Bon, d'accord, il n'y a que des apôtres hommes, mais parlons-en, souvent, c'est eux qui ne comprennent rien, qui doutent, qui remettent en cause, vous voyez. Et par conséquent, quand on regarde au point de vue de la qualité, bah, les femmes sont plutôt pas mal. J'ai cherché les femmes, justement, qui étaient à côté de la plaque. A priori, j'en ai trouvé qu'une et demie, deux, quoi. Alors, on pense d'abord à Marie au temple, quand Jésus a 12 ans, qui gronde Jésus, disant, mais enfin, quand même, t'aurais pu suivre un peu plus docilement, on a eu du souci. Puis Jésus est obligé de dire, bah, écoutez, il faut aussi que je m'occupe des affaires de mon père spirituel, dans un sens. Et donc là, elle comprend quelque chose, mais là, elle était un peu à côté de la plaque.
Mort, hein, quelqu'un.
Mais c'est compréhensible.
Qui a perdu son enfant dans la foule.
Oui, donc...
c'est pour ça que je...
C'est pour ça que je disais un et demi, ça, c'est le demi, quoi.
C'est le demi, oui.
Mais il y a aussi la mère des fils de Zébédée qui vient voir Jésus en disant « ben, mes deux fils, si tu pouvais faire qu'ils soient assis à ta droite et à ta gauche dans le royaume des cieux, ce serait pas mal. » Jésus trouve ça plutôt rigolo, quoi. Mais il se rend compte, il comprend qu'en fait, c'est pas tellement la mère qu'elle était envoyée par les deux fils, en fait.
Mais peut-être c'est pour les séparer qu'ils sont à côté de Jésus.
Ah. Ben, ils avaient l'air de bien s'entendre, les deux frères, les deux fils de Zébédée, hein, Jacques et Jean. Donc, sinon, vous envoyez d'autres, vous, des femmes qui seraient un peu à côté de la plaque dans les évangiles ? Qui ? Marie-Madeleine, c'est une ancienne pécheresse, mais là, dans les évangiles, elle est quand même plutôt pas mal, elle est impeccable. Non, moi, j'en vois pas tellement d'autres.
C'est l'anonyme qu'on voulait lapider.
Oui.
Ah, mais c'est avant Jésus qu'elle avait...
Non, puis même, elle est pas... Elle discute assez...
Mais ça se termine pas mal.
ça se termine pas mal. Et donc Jésus dit qu'effectivement, elle a une mauvaise vie au départ, mais dans l'histoire, elle n'a pas un rôle négatif.
Bah non, parce que moi, dans cette histoire-là, dès que j'étais enfant, je me dis, et l'homme, il est où dans cette histoire de femme adultère?
Oui, alors l'homme, ça, c'est traditionnel, effectivement. Bah,
ça... Même, ça pose question. Bah,
oui.
Oui,
ça veut dire quoi, adultère, en fait, dans les termes...
Alors, a priori, je crois que celle-là, si elle était question qu'elle soit lapidée, c'est qu'en fait, elle était fiancée et elle a... Elle a couché avec un homme avant le mariage, que ce soit...
Avant le mariage.
Voilà, avec...
Ça se fait encore dans certains pays.
Voilà, j'allais dire, sans vouloir dire du mal
des musulmans,
oui, ben, il y a des pays où... Voilà, hein. Et quand on voit ce qui se passe dans ces pays, ben, effectivement, quand on voit la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, c'est déjà un progrès, parce que si vous voulez, quand t'as volé une pomme, on te coupe une main. J'aimerais mieux, quand t'as volé une pomme, on te fait rembourser une pomme, quoi. Oui. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Mais enfin, cela dit, bon.
On a lapidé. Moi je me rappelle la lettre écarlate, la femme n'est pas lapidée. Elle est sur le bord du village. Mais elle n'est pas lapidée dans la lettre écarlate.
Ça c'est bien.
Bah oui, c'est le fondamentalisme protestant, c'est ça.
Pardon ?
Le fondamentalisme protestant, c'est la lettre écarlate, vous l'avez lu.
Non, mais je parle de l'actualité d'aujourd'hui. Ah.
L'actualité d'aujourd'hui, c'est vrai que effectivement, les intégristes protestants, on a de quoi ne pas être fiers.
Oui, mais ils ne lapident pas.
Et ils sont d'origine protestante.
Ils lapident un peu moins. Mais.
Oui, mais condamnés à mort à la chaîne.
Mais c'est vrai qu'il y a des. Mais c'est vrai qu'en Amérique, beaucoup, les condamnés à mort à la chaîne, même des handicapés mentaux condamnés à mort, ça existe. Ah, et c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi être fier non plus, tout à fait.
C'est sûr.
Exactement. Oui, oui, tout à fait. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc, bref, je trouve que si vous voulez, dans les évangiles, la place des femmes n'est pas négligeable. Leur qualité est plutôt remarquée. C'est-à-dire, on remarque que c'est des femmes qui sont assez indépendantes, qui ont l'esprit d'initiative, de responsabilité, et puis qui sont remarquées par leur foi, en fait. C'est-à-dire que elles ont courage, elles osent et elles demandent et elles ont voilà. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique de la femme dans les évangiles globalement. Alors on peut se poser la question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas de réponse. Comment ça se fait que, compte tenu de cela, Jésus est nommé que des apôtres hommes, 12 apôtres hommes.
Parce que les femmes étaient à la maison.
Il y en avait avec lui, justement.
Il y en avait qui étaient avec lui, qui suivaient, qui étaient dans le groupe des disciples, dans le groupe des apôtres, on le voit.
Peut-être qu'ils avaient peur qu'elles se fassent lapider si elles se mettaient à prophétiser. Hein, face à...
Alors, ça pourrait...
C'était quand même dans la culture de cette époque.
Quelle était la place de la femme? C'était beaucoup pas d'être au foyer, de ne pas s'occuper de ce qui est de la
oui. Alors, ça, vous avez raison,
c'est que... Elle n'étudiait pas la Torah.
Voilà, les femmes dans la synagogue, dans le temple de Jérusalem, les femmes ne rentraient pas dans le temple. Il y avait le parvis pour les femmes, mais elles ne rentraient pas dans le temple. Et puis, pour la synagogue, les femmes étaient séparées des hommes.
Oui, j'ai été à certaines synagogues. Les femmes étaient en haut et où les hommes étaient en bas.
Et puis,
les femmes étaient en haut avec les enfants.
Alors souvent maintenant, les synagogues libérales, c'est beaucoup plus mélangé. Et si vous voulez, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup de synagogues, les garçons font la bar mitzvah et les filles la bat mitzvah, c'est-à-dire
chez
qu'il y a
libéraux, ouais, c'est ça.
Chez les libéraux chez les et il y a des femmes rabbins. Puis il y a des femmes rabbins, il y a Pauline Bebe et puis Delphine Horviller. À Paris, il y en a deux. Oui.
Maintenant, il y en a des. Moi, j'en ai connu une. Maintenant, il y avait que Pauline.
Dans la tradition, ça a fait un peu scandale aussi.
Alors ça, voilà, ça avance à ce point de vue-là. Bon, donc si vous voulez, à l'époque de Jésus, en tout cas, c'est clair, il faut rétablir quand même dans le contexte. Vous avez raison, une femme apprenait pas à lire la Torah, elle était à la maison. Il n'y a pas que chez les Juifs que c'était comme ça, c'était quand même,
les Romaines étaient quand même vachement émancipées à cette époque-là.
Voilà, les Romaines pouvaient
elles
être assez
elles avaient réussi à récupérer leur argent. Et quand même, l'argent, c'est le fer de lance de la liberté, surtout à Rome.
Et puis on le voit finalement dans cette histoire, les femmes sont quand même assez indépendantes et assez libres. On le voit, c'est Marthe et Marie, Marthe qui reçoit Jésus chez... Voilà, et puis on voit des femmes, on cite des femmes qui accompagnent Jésus, suivent et même les soutiennent, le groupe, largement en fait, au point de vue financier, au point de vue accueil aussi, au point de vue service. Alors moi je crois qu'en fait vous avez raison, c'est que c'était un peu l'époque, et quand on regarde, c'est difficile parce que Jésus ne fait pas de traité sur la place de la femme, mais quand on regarde dans ses paraboles finalement, il parle de la vie courante, de la vie de tous les jours, il est quand même très classique, c'est-à-dire que c'est quand même l'homme qui est le chef de famille, c'est l'homme qui fixe les tâches, les rôles, le père, c'est le maître de la vigne, c'est un vigneron, c'est pas une vigneronne, le roi c'est un roi, c'est pas une reine... Et puis la femme, il y en a dans les paraboles, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles font le pain, elles font le ménage.
Elles perdent leurs bijoux.
Elles perdent leurs pièces d'or qui roulent sous le lit, elles vont balayer qu'un balai, elles font le pain en pétrissant la farine.
Elles cassent le vase de parfum.
Alors ça c'est bien par contre.
Ah, mais le casse
oui, ça c'est bien.
C'est exceptionnel.
Mais enfin des gestes comme ça, oui, il y en a quand même justement des femmes comme ça de foin avec une femme... Et là, justement, ça, c'est un bon exemple, la femme qui est avec le parfum, parce que Jésus dit quand même, partout et où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme, comme si vraiment le témoignage de cette femme était indispensable pour être joint à l'évangile lui-même.
Et puis c'est elle, la oui, première, qui a trouvé le tombeau ouvert, quand même.
Ah oui, ça, c'est Marie-Madeleine, oui.
Marie-Madeleine.
C'est l'histoire de société archaïque, mais qui peut s'appliquer aussi à l'époque moderne. Moi, je considère que la volonté du pouvoir est détenue par les femmes. Pour une raison assez simple, c'est que pour donner la vie, il faut 9 mois à une femme. Un homme qui vient après, il peut recommencer. Donc, la femme est plus précieuse que l'homme.
Oui, la femme est plus précieuse que l'homme parce qu'elle peut faire donner la vie.
Et toute l'histoire, ouais. Toute la vie, entre eux, puisqu'ils ne sont pas aussi précieux que les femmes, on bâtit une organisation sociale et politique.
Voilà. Oui, donc là, vous avez raison.
Mais chez les femmes, il y a aussi des monstres. Rebecca est un monstre.
Qui ça?
C'est un peu la Sinclair de l'époque.
Qui?
Rebecca.
Oui.
Déborah, peut-être? Non, Rebecca est...
Ah non, Déborah.
Rebecca, elle privilégie un fils par rapport à l'autre, mais à mon avis, là, bon.
Non, faut... l'exercice du pouvoir, il se fait encore aujourd'hui quand on voit un S qui pourrait étancher sa soif de pouvoir épouse un homme qu'elle croit devenir puissant. Parce que la fédération d'exclus, on ne sait rien. C'est l'exercice du pouvoir par une femme à travers la procuration d'un homme.
Ça peut arriver, hein.
Mais c'est le fondement même de. Et la vie n'est que l'organisation sociale des hommes pour ne pas s'entretenir entre eux. Donc, fixe une hiérarchie entre les hommes et des symboles pour pouvoir ne pas s'entretenir.
C'est vrai. Et puis, c'est vrai que dans cette place de l'homme par rapport à la femme dans l'Alliance, dans l'Ancien Testament, elle est due à ça aussi, c'est-à-dire que la femme, déjà, elle donne la vie physique finalement, la vie biologique. Même si à l'époque, ils pensaient que la femme, c'était quand même un peu un four dans lequel on met un pain, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'était l'homme qui mettait une graine, d'ailleurs on le retrouve souvent dans les paraboles, hein. C'est l'homme qui met une graine et puis finalement l'enfant vient de l'homme. Mais enfin bon, quand même, dans la Bible, on voit que Ève, elle s'appelle la vivante. Celle qui est source de vie. Donc il y a quand même l'idée que la femme est porteuse de vie, donne la vie, crée la vie. Et donc du coup, pour contrebalancer la dimension spirituelle, la dimension d'adoption finalement de l'enfant par le père, parce que c'est toujours une adoption, hein, il ne peut jamais être persuadé certainement, à part de mettre sa femme l'enfermer dans un coffre-fort, il ne peut pas être sûr que l'enfant est vraiment de lui. Donc faut quelque part, faut qu'il l'adopte. Il ne l'a pas porté en lui-même. Donc... C'est l'homme qui porte cette dimension spirituelle pour la famille, pour l'enfant, pour contrebalancer que la femme n'est pas tout le pouvoir finalement, le pouvoir de donner la vie biologique et le pouvoir d'être le véhicule, le canal de l'alliance entre Dieu et la famille. Alors il y a aussi effectivement l'idée que la femme est beaucoup plus précieuse, comme vous le dites, techniquement, c'est vrai que si on perd un homme, c'est pas très grave, on continue à pouvoir faire des enfants et construire une famille. Si on perd la femme, c'est nettement plus gênant et il faut 18 ans pour en fabriquer une autre, donc c'est quand même pas rien. Mais bon, c'est pour ça que dans ce contexte, je trouve que la place de la femme dans les évangiles est assez remarquable. À mon avis, si vous voulez, c'est là que c'est délicat. Il faut distinguer le Jésus historique, Monsieur Jésus, et le Christ des évangiles. Monsieur Jésus, à mon avis, il a nommé au début 12 hommes parce que, pour des raisons, bon, parce que c'était un peu la culture de l'époque, ça l'était une évidence, c'était la suite des 12 patriarches, bon. Deuxièmement, c'est plus pratique, il rentrait dans les synagogues, il prêchait, bon, avec une femme, c'est plus compliqué. En plus, un groupe itinérant comme ça, qui couche dans les champs, qui va coucher dans une maison, groupe d'hommes et de femmes mélangés, ça peut faire un petit peu suspect pour les gens de l'époque.
C'est justement ce qui arrivait avec les camisards, où il y avait des femmes prophétesses qui appelaient d'ailleurs au meurtre et qui dormaient dans les champs avec le groupe. Et ça a été une des choses qui a été mise en
reproché. Et pour les premiers chrétiens aussi. Les premiers chrétiens, dans les accusations qu'on voit peut-être au 2e, 3e siècle, c'est qu'est-ce qui se passe comme ça dans des groupes où hommes et femmes sont mélangés, où ils se réunissent tard. Origène, le grand Origène, spécialiste de lecture de la Bible, passionné d'études bibliques, il faisait ça avec des groupes mixtes, au point que ça a fini par jaser, etc. Et lui, il a dit, bon, puisque là, il y a un problème, il y a marqué dans l'Évangile, si ta main gauche te gêne, coupe-la, si ton œil te gêne, tu l'arraches. Il a dit, ben moi, il y a un problème, c'est qu'on m'accuse de faire des choses pas propres avec des hommes et des femmes. Par conséquent, il s'est auto-châtré.
Origène.
Alors ensuite, il a réfléchi et il a regretté. Il a dit, finalement, ce verset de l'Évangile, si ta main gauche te gêne, coupe-la, j'aurais dû le prendre au sens figuré, si vous voulez, au sens allégorique. Pas au sens littéral et matériel de la chose. Donc il a un peu regretté, finalement, d'avoir été trop courageux sur ce plan. Mais enfin, si vous voyez...
Ça pouvait penser au culte d'Attis, c'est assez gênant.
Voilà, c'est ça. Ça pouvait correspondre à ces cultes avec des prostituées sacrées, etc. Donc, à mon avis, c'est pour ça que Jésus a choisi 12 apôtres hommes. Mais au cours de son ministère, de son itinéraire, le Jésus de Nazareth, si vous voulez, à la rencontre, à mon avis, de ces femmes, il a évolué dans son truc. Et on voit que la place de la femme, à la fin, finalement, culmine, vous aviez raison, avec Marie-Madeleine, qui est finalement nommée apôtre des apôtres, dans un sens. Parce que c'est elle qui a vraiment première place, elle est envoyée pour annoncer, elle devance les plus grands apôtres Pierre et Jean, dans cette expérience spirituelle de la résurrection, et elle est envoyée comme apôtre des apôtres. Alors, quel que soit la façon dont on comprend la résurrection de Jésus, soit littéralement, physiquement, biologiquement, ou si on le comprend comme une expérience spirituelle des disciples et des apôtres. Toujours est-il que cette place, si vous voulez, de Marie-Madeleine, historiquement, ça semble assez plausible qu'elle ait été à la fin, finalement, à la fin du ministère de Jésus, une des premières parmi les premières, devançant même Pierre et Jean. C'est tout à fait plausible, en fait, cette histoire-là, oui.
Oui, comme Marguerite d'Angoulême a devancé Luther et Clément.
Quoi ? Marguerite d'Angoulême qui a devancé... Oui, bah oui, dans un sens.
Et ce qui est emblématique dans notre religion, c'est beaucoup plus que communiste, c'est Marguerite d'Angoulême et Jeanne d'Albret qui était la reine des Huguenots.
Non, c'est des belles figures. Hein.
Oui. Moi, je ne porte pas de poids, mais...
Oui, elles sont pas mal.
Elles sont pas mal.
Sachant que Huguenot, ça veut dire confédéré, donc vous portez la croix des
Huguenots. Vous pouvez parler un peu plus fort,
pourquoi pas.
Et alors, il y en a, à l'époque, bon, il y en avait d'autres avant ces femmes, peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. Mais bon, celles-là sont franchement formidables et super. D'ailleurs, ça a bien aidé la situation des protestants. Donc, à mon avis, Jésus lui-même a évolué. Et on le voit, quand même, la place des femmes, là, elles sont... on peut les considérer comme apôtres. Marie-Madeleine n'est pas la seule, la Samaritaine aussi, Marthe aussi va vers les autres, et peut y en avoir d'autres dans les évangiles. Ça, c'est quand même assez typique, c'est quand même assez remarquable. On va voir ensuite que dans les Actes des Apôtres, la lettre de Paul, il y a des femmes qui sont apôtres, des femmes diacres, des femmes de premier plan, hein, qui sont même, qui ont les premières places. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors, comment ça se fait que dans l'histoire du christianisme, très rapidement, les choses ont été bouclées, verrouillées? C'est qu'à mon avis, voilà, ça a marché du temps de Jésus, ça a marché quelque temps après Jésus, avec cette liberté qu'il avait, mais dans le milieu grec, peut-être, hein, dans ce milieu de la culture grecque, dans aussi la place du pouvoir, quand l'Église a commencé à se structurer, les machos sont revenus au premier plan et ont repris les choses bien en main. Il me semble.
Et on a entendu à ce moment-là Paul dire dans les assemblées que la femme commence par se taire.
Oui, alors ça, faudrait voir parce que c'est peut-être un contexte, parce que par ailleurs, Paul est celui qui dit, il parle de femme apôtre dans la lettre aux Romains, dans d'autres lettres. Et puis, c'est quand même lui qui dit qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni un. Donc, il y a quand même une vraie place pour... Bonjour, madame. Donc, à mon avis, voilà. Et alors, c'est vrai que dans l'histoire, nous, on n'a pas à faire spécialement les malins pour que les hommes laissent la place à des femmes, pour qu'elles puissent être pasteurs dans l'Église réformée. Il faut quand même attendre officiellement après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale.
Il y en avait eu pendant la guerre ?
Il y en a eu deux pendant la guerre, deux pendant la guerre.
Schmitt qu'elle s'appelait.
Alors il y a Schmitt et Durand, elles étaient deux en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'était pas facile pour elles, hein. Ça n'a pas été facile. Et elles étaient un peu pasteurs de deuxième zone en fait, un petit peu. Ensuite on avait des assistantes de paroisse, vous voyez, qui avaient fait les études de théologie, mais qu'on mettait assistantes de paroisse, qui ne pouvaient pas être pasteurs. Au début, on disait, d'accord pour être pasteur, à condition que vous n'ayez pas de mari et pas d'enfant. Alors, je ne sais pas, ne me demandez pas pourquoi, c'est surréaliste. Ils ne voulaient pas de mari de pasteur.
Il paraît que chez les Anglicans, ils attendent des candidates maintenant.
Alors, chez les Anglicans, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'il y a autant, il y a énormément de femmes pasteurs, on dit prêtres. Et comme elles sont très nombreuses, il y a des statistiques qui sont faites, les femmes pasteurs se débrouillent mieux que les hommes pasteurs en moyenne. C'est-à-dire que leur église, il y a moins de problèmes, elles se développent mieux, parce que il y a peut-être un rapport au pouvoir, une façon de peut-être une certaine finesse de relations humaines que les hommes n'ont pas toujours. Je ne sais pas, je ne veux pas dire du mal, mais...
Et depuis quand elles sont pasteurs en Angleterre, depuis quand elles sont...
Ça fait déjà quelque temps, à mon avis, ça fait au moins une trentaine d'années.
Hein. Ah, d'accord. La Deuxième Guerre mondiale.
Oui, oui, aussi, à mon avis. Oui.
C'est plus fluide en Angleterre parce que c'est identifié territorialement et il y a une adresse postale. Si vous voulez envoyer une carte postale, vous écrivez Madame Windsor de Kingham Palace, et vous donnez le code postal, c'est W1. Et ça arrive. Le pape, c'est pareil. Si vous voulez lui écrire, Vatican, Rome, je ne connais pas le code postal, ça va arriver, la carte postale. Non, il n'y a pas de territorialité et il n'y a pas de c'est posé.
On peut écrire à monsieur le pasteur de l'oratoire.
Elle se rend compte des problèmes quotidiens.
Oui.
Elle se rend compte des problèmes quotidiens.
Peut-être pas.
Bien mieux que certains hommes, oui, tout à fait. Donc je vous proposais, si vous voulez, parmi ces femmes libres, je vous proposais la femme cananéenne, qui est particulièrement libre et qui se prête, si vous voulez, à des interprétations diverses. Parce que, eh bien, vous allez voir, Jésus a un rôle qui peut sembler discutable, en fait, dans cette histoire. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de lire ce texte? Quelqu'un qui a une bonne voix, pour qu'on entende bien? Quoi? Il y a une petite feuille, c'est la petite feuille si tu veux. Voilà. Bon, je vous le dis alors, tant pis. Ah oui, d'accord, merci, oui, c'est sympa.
Je vais faire un petit...
Oui.
Alors, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance : Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit : Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-moi. Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie.
Alors qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas choquant ? Comment comprendre que Jésus dise : Bon, ben, il y répond même pas un mot, ni oui, ni merde, si je puis dire.
C'est choquant.
Il la compare à des petits chiens.
Après, il la compare à un petit chien.
À un petit chien. Mmh.
Bon, donc c'est... On peut avoir cette attitude.
Et elle,
la solliciter, on peut dire : Bon, ben, j'ai déjà donné, ça suffit, je donne pas.
Donc c'est choquant quand même. Non ?
Et puis en fait, elle est obligée de dire qu'elle est une miette pour qu'il l'écoute. Il a fait s'abaisser.
L'humilité.
Donc on l'oblige à s'humilier.
On l'oblige à s'humilier. Moi, je trouve pas c'est normal.
Moi, je trouve que c'est pas du tout le seul cas où il oblige la personne à le demander avec insistance. Un truc qui m'a frappée en tant que pas très bonne voyante, c'est cet aveugle. Il dit : Mais qu'est-ce que tu veux ? Il faut que l'aveugle dise : Je veux voir, comme si ça ne sautait pas aux yeux. Il faut vraiment que la demande soit appuyée pour qu'il y réponde. Ce n'est pas le seul cas.
Mais c'était parce qu'il était envoyé, au départ, il était envoyé aux brebis perdues d'Israël. Il était envoyé vers le peuple élu au départ.
Ça se discute justement.
C'est ce qu'il le dit à plusieurs reprises.
Oui. Alors comment comprendre ça justement ? Alors, si vous voulez,
oui.
Alors voilà, ça c'est la question. Ça c'est une question intéressante. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'ouverture aux autres peuples, que le peuple juif, c'est l'invention de Paul qui a inventé finalement le christianisme, alors que Jésus, son objectif, c'était de faire du judaïsme libéral finalement.
Voilà.
C'était pas tellement d'ouvrir aux nations.
À la synagogue.
Voilà, c'était.
Il avait un objectif.
Israël est le pays élu.
Et Israël est le peuple élu.
Voilà.
Donc on peut se dire, voilà Jésus, son objectif, et finalement c'est Paul qui finalement a inventé le christianisme, c'est-à-dire cette ouverture vers les nations, cette libération, si je puis dire entre guillemets, parce que les juifs diraient pas ça, libération de la loi, de la cache-route en fait, des lois, des règles alimentaires, des histoires de pas marcher, pas travailler le jour du sabbat, etc. Donc il a inventé un... On pourrait dire Jésus a inventé un judaïsme libéral. C'est vrai. C'est un juif libéral.
Il a brisé les tabous.
Le mot d'objectif que vous employez, moi ça me questionne. Est-ce que Jésus avait en vue de créer une religion ? Est-ce qu'il n'a pas été surpris de voir ce qui s'est passé dans les siècles suivants ?
Oui. Oui, je crois que Jésus ne voulait pas inventer une nouvelle religion.
Non,
ça, c'est clair. Alors, quel est son objectif ? Voilà, ça, c'est la question. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'être Christ ? Alors, à mon avis, si vous voulez, on pourrait dire... Alors, il y a des gens qui disent que... Jésus, au début, il était comme ça, très centré sur peuple juif, et que finalement, cette femme, elle le convertit, c'est-à-dire que c'est elle, avec son courage, avec sa détermination, avec son charisme, avec son...
Et pour sauver sa fille.
Et pour sauver sa fille, son amour.
Qu'est-ce qu'on ferait pas pour sauver son enfant ?
Ben ouais.
Ça dépend avec elle.
Eh bien, qu'elle convertit Jésus, finalement. Alors, est-ce qu'on peut dire ça ?
Ça le fait réfléchir.
Ça peut le faire réfléchir. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est bon. Alors, voilà, là, je vous propose... D'ailleurs, si je vous parlais d'Origène, c'est un peu pour ça. C'est que je vous propose question pour la lecture d'un texte biblique. Il y a le sens premier. Qu'est-ce qui est raconté ? Qu'est-ce qui est arrivé, entre parenthèses ? Parce que, de toute façon, d'abord, on ne peut pas être sûr de ce qui est vraiment arrivé. Deuxièmement, à la limite, on s'en fiche un peu, parce que la question, c'est surtout de ces textes, ces histoires, elles sont là pour nous dire... le salut en Jésus-Christ, donc pour parler de notre salut aujourd'hui et maintenant, Et il peut très bien y avoir des passages qui sont un peu arrangés, qui sont brodés, qui sont même, qui sont créés pour nous dire ce salut en Jésus-Christ. Donc la vérité, elle est d'abord d'ordre théologique, spirituel, existentiel, pas forcément littéral de chez littéral. Donc, mais on peut quand même se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé avec Monsieur Jésus qui a vraiment existé, si vous voulez. Le sens moral et le sens spirituel, c'est pour reprendre le sommaire de la loi. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si vous voulez, ça reprend le sens moral et le sens spirituel. Et puis le sens théologique, eh bien, quelque part, quand on voit Jésus vivre, qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus-Christ, donc quelque part, ça nous parle du Dieu auquel on croit, si vous voulez. Même si Jésus n'est pas Dieu au sens où ce serait Dieu qui marcherait en sandales sur les poussières, les routes poussiéreuses de Palestine. Mais il y a quelque chose qui se dit de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, quand même. Donc, ces sens de l'écriture, ça vient des Juifs d'il y a longtemps, et ça a été transmis par les rabbins, par le Talmud, par Origène, par Saint Jérôme, et par le Saint Augustin, et tous les autres, par Thomas d'Aquin. Et donc ces sens de l'écriture, c'est des questions qu'on peut se poser sur des textes bibliques pour essayer de faire sens pour nous, pour notre existence.
En fait, Jésus est presque vaincu par la foi de cette femme.
Alors voilà.
Qui dépasse tous les tabous sociologiques.
Donc ça, on pourrait se dire ça. En même temps, si on se place dans le domaine du sens premier, c'est cela qu'on fait une lecture, si vous voulez, historico-critique. C'est-à-dire qu'on essaye de se mettre dans le contexte de l'époque, essayer de voir quelle est la vie de l'époque, quelle était la culture, quelle était la théologie de l'époque, pour essayer, bon. Alors si on dit Jésus est le Christ, et si Jésus se prenait pour le Christ... Eh bien, si vous voulez, le Christ a forcément une dimension d'universel. Parce que le Christ est celui qui réalise le plan de Dieu, qui réalise la promesse faite à Abraham dans Genèse 12, si vous voulez, que toutes les nations seront bénies par Abraham. Par conséquent, par définition, si Jésus avait conscience d'être Christ, c'est pas cette petite femme qui va lui dire que sa mission et son rôle, elle est universelle pour tous les peuples. Alors, on peut dire, bon, ça c'est sûr. D'ailleurs, si vous voulez, si on regarde l'évangile, eh bien, en particulier l'évangile selon Matthieu, si vous voulez, parce que là on est dans l'évangile selon Matthieu, Jean-Baptiste, Matthieu 3, il dit que la question, c'est pas question de descendre d'Abraham par le sang, parce que Dieu, il peut très bien faire naître des fils d'Abraham, des pierres qui sont là sur la route. Donc si vous êtes déjà dans Jean-Baptiste en Matthieu 3, si on suit la ligne narratrice de ce livre, déjà il y a cette dimension d'universel poussée même jusqu'aux pierres, si vous voulez. Ensuite, Matthieu 5, Jésus dit aux gens qui sont là, qui l'écoutent, qui sont des tout-venants, si vous voulez, pas simplement forcément des juifs, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Ça reprend une théologie bien connue du peuple hébreu qui est « lumière des nations ». C'est-à-dire qu'il est un peuple de prêtres, pas simplement Israël pour Israël, mais Israël qui a la vocation d'illuminer l'univers avec ces témoignages de l'Éternel. Alors c'est vrai que les Juifs, à force d'en avoir pris plein la gueule depuis 2000 ans et de se faire persécuter, ils se sont un peu refermés dans leur coquille, et à mon avis, ils ont mis sous le boisseau cette dimension d'être prophète dans le monde et de témoigner dans le monde de l'Éternel.
Je ne sais pas, je comprends un petit peu, je comprends pas, mais ce qui me gêne, c'est que Christ n'a pas une vocation universelle, mais différentielle. Et quand on parle de nations, les nations ne peuvent se constituer que par différence les unes par rapport aux autres. Mais aujourd'hui, par exemple, Israël ne se définit que comme État d'Israël, ou comme un peuple juif. Jamais on prononce le mot nation d'Israël. Alors, la nation, c'est par opposition à la loi tribale qui est l'Ancien Testament, peut nous entraîner vers la loi consentie, qui permet de créer des nations. Mm. Et des nations, c'est une association librement consentie entre des hommes et des femmes qui ont un objectif commun. Mm. Et c'est ça qui bloque.
Oui, c'est vrai que ça c'est compliqué, parce qu'Israël, c'est à la fois c'est un peuple, à la fois c'est un club, à la fois c'est une religion, à la fois c'est une nation.
C'est peuple juif ou État d'Israël, mais jamais nation. Une nation, c'est une association de femmes, ensemble dans un objectif.
Oui.
Avec des sources, des traditions communes.
Oui, mais dans un sens, c'est un peu ça quand même, parce qu'on n'est pas simplement fait partie d'Israël par le sang comme une race ou comme une descendance, parce qu'on peut aussi le rejoindre par conversion.
Oui, non, mais
et puis il y a une.
Il y a la loi tribale qui est fondamentalement juive, et il y a la loi consentie qui apporte Paul. C'est-à-dire que, ce qu'on a dit la dernière fois, au moment où Pierre tergiverse et dit oui, ils ont peut-être raison finalement, comme on est occupé par les Romains, comment on va s'y prendre? Est-ce qu'on se replie sur nous-mêmes ou est-ce qu'on s'ouvre? C'est-à-dire qu'on accorde par le baptême la possibilité de la foi, qui donne l'ouverture vers chacun de ces nations. C'est parce qu'on fait les Juifs. Les Juifs se sont repliés sur la loi tribale. Et la loi tribale, elle implique des rites particulièrement clairs.
Ben, en même temps, les 10 commandements, c'est un peu comme une constitution civile et religieuse.
Sachant qu'il existe en Égypte à peu près identique.
Bon. La loi tribale, elle est immuable, elle est gravée. La loi consentie, elle est modifiable.
Bon. Mais en tout cas, bon, à mon avis, si vous voulez, Jésus, je crois qu'il avait cette dimension de vocation à l'universalité, c'est-à-dire de sauver tous les peuples et s'adresser à tous les peuples. Mais ça n'empêche qu'il pouvait avoir quand même une stratégie pour aller vers ce but. Et à mon avis, cette stratégie, c'était de convertir la foi, le regard d'un petit groupe de personnes qui ensuite essaimeraient dans le monde entier. Donc je pense que, si vous voulez, là, on pourrait dire, éventuellement, il y a une question de stratégie, c'est-à-dire que c'était pas son job, c'était pas sa mission première prioritaire de s'adresser à des gens, des étrangers d'abord, et deuxièmement, d'aller guérir physiquement des gens. Ça, on le voit souvent, il dit, mais écoutez, d'accord pour une guérison physique, parce que je peux pas m'en fiche de votre souffrance physique, mais en même temps, n'allez pas trop en parler, parce que, si vous voulez, c'était un problème de quel Messie, quel Christ il incarne.
Il ne voulait pas passer pour un guérisseur.
Il ne voulait pas passer pour un guérisseur. Et puis, si vous voulez, il y avait différentes. Quand on dit que le Christ, il accomplit les Écritures, c'est-à-dire les promesses de l'Ancien Testament, oui et non. Parce que dans l'Ancien Testament, en concurrence, il y avait plusieurs modèles de Messie ou de Christ. Mmh. Il y avait un Messie politique, justement, fils de David qu'on a ici. C'était quand même beaucoup... rétablir la paix, et rétablir la santé, rétablir la justice politique, sociale, peut-être même physique en ce monde.
Il s'adresse au fils d'un roi, beaucoup plus qu'un Messie.
Il s'adresse à un Messie.
Le moment plus important pour moi dans le texte, c'est le fils de David.
Un Messie qui est de l'ordre d'un fils de David.
C'est le fils d'un roi.
Ben voilà, un Messie qui est sur le type de le modèle de David, donc, mais qui aurait une vocation à l'universel. Donc elle n'a pas tort dans ce sens-là. C'est finement joué.
Il y a le mot maison qui, à l'époque, signifie la nation d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a...
Je vous téléphone pour prendre...
Avec joie, d'accord.
Le mot maison qui dans le vocabulaire d'aujourd'hui, pourrait correspondre à la nation. Donc, il y a une dualité. Elle ne s'adresse pas au Messie, elle s'adresse au fils du roi.
Sauf que fils de David, si vous voulez, à l'époque, c'était quand même un peu un terme messianique. Mais c'était un terme messianique... d'un certain type de Messie. Donc, c'est discutable. Alors, si vous voulez, à mon avis, peut-être que dans un sens, cette femme, elle dérangeait Jésus dans sa stratégie, dans sa mission concrète, très centrée sur le spirituel, très centrée sur la relation à Dieu, sur la relation à l'autre, très centrée sur la qualité de la relation. Et pas tellement sur la santé du corps, pas tellement sur... ils ne pouvaient pas courir partout, aller courir chez les papous pour arranger leurs affaires, courir chez les Esquimaux pour leur apprendre à chasser le phoque. Ils ne pouvaient pas faire ça, si vous voulez. Il était donc centré sur... il avait très peu de temps, dans l'urgence, former une poignée de gens à cette façon d'être. Donc pour ça, ça demande une stratégie. Et dans un sens, il se laisse, à mon avis, déranger dans cette stratégie prioritaire par cette femme. À mon avis, ça, c'est... À mon avis, c'est plutôt ça qui arrive.
Moi, alors, au niveau... Mon stratégie me gêne énormément. Ça implique, comment dire, quelque chose qui est presque calculé. Moi, je sens
Moi, je crois, oui.
C'était organisé, s'il n'avait pas beaucoup de temps, il fallait qu'il soit...
Moi, je crois, il apprend à faire ça. Il nous dit, quand vous avez un ordre de bataille, il y a une parabole qui dit ça. Quand vous avez un ordre de bataille, tu commences par t'asseoir, par réfléchir, et par voir comment tu vas faire. C'est la parabole de la tour, la tour et l'homme qui va à la bataille, c'est ça. Donc c'est dans Luc, c'est... Oui. Hmm.
Oui.
Oui, parce que sa fille.
Elle est malade.
Sa fille est malade,
elle est malade. Elle est malade, elle est à la maison malade.
D'accord.
Donc effectivement, c'est pour ça que j'ai mis des petites colonnes, vous voyez. C'est les différents personnages. Donc il y a Jésus en premier, on peut y voir un peu Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait. Il y a la femme, il y a les disciples, et puis il y a l'enfant. L'enfant qui est donc hors champ de la caméra, si je puis dire. Donc ça donne différents niveaux d'autonomie, différents, vous voyez, on peut regarder un petit peu dans les différentes colonnes, la place, le rôle de chacun, qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, on peut se demander qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est une bonne idée, quelle idée ça me donne pour vivre bien aujourd'hui. Donc pour Jésus, par exemple, on pourrait se dire, en même temps peut-être qu'il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait, avoir une ligne directrice, pas se disperser. On ne peut pas, comme dirait l'autre, sauver le monde entier, s'occuper de toutes les misères du monde. En même temps, chaque misère doit trouver son sauveur. Donc, quelle vocation on entend pour notre propre existence? Qu'est-ce qu'on choisit comme ligne directrice, comme personne à aider, comme situation d'implication? En même temps, on peut, comme ça... réfléchir, se fixer, et en même temps, il faut savoir se laisser déranger dans le plan par la surprise. Mmh. Comme dans la parabole du bon samaritain, où ben, y en a qui sont là comme missionnaires du religieux, qui ne peuvent pas s'arrêter, et qui choisissent de ne pas se laisser déranger dans leur mission première. Et puis un homme, un samaritain, qui choisit, lui, de se laisser déranger dans sa trajectoire. Et on voit Jésus, de temps en temps... Il va dire, il y a des gens qui sont là, qui veulent l'écouter. Il dit, écoutez, mais maintenant, ça suffit, vous dégagez, parce que moi, j'ai besoin de prendre un temps pour nourrir, pour prier. Et il les chasse. Donc, il y a des moments où il dit, écoutez, maintenant, ça suffit, la boutique est fermée. Et puis, des moments où il est en train de prier tranquillement, et il y a des gens qui arrivent, ils se laissent déranger. Donc, à mon avis, voilà, il faut en même temps, pour maîtriser le truc, et en même temps, accepter de ne pas maîtriser, c'est déranger. Donc ça, si vous voulez, je crois qu'il y a une réflexion... intéressant ce sens moral pour suivre Jésus dans ce domaine-là.
Oui, mais c'est la foi, c'est le plan spirituel de cette femme qui a dépassé, qui a vaincu le plan physique.
Elle avait vraiment la foi. Sa fille est malade chez elle. Elle laisse sa fille toute seule. Elle laisse sa fille. Elle va voir Jésus pour qu'il la sauve. Elle va laisser une enfant malade. Moi, en tant que mère, je me rends bien compte. Un enfant malade chez soi, il faudrait qu'elle ait la foi en se disant je le laisse et Jésus va faire quelque chose. C'est tout de même. Elle avait vraiment la foi.
Oui, non, chapeau, oui.
Et en même temps, la fille n'est pas là, elle n'exprime rien. C'est Seigneur, secours-moi, viens à mon secours. Hein, et c'est pas secours ma fille.
Ben oui, mais de cette manière, c'est du genre.
Il s'agit de vouloir le bien de la fille que la fille elle-même n'a pas exprimé.
C'est la question que j'essaie de poser.
Comment?
Il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans, justement.
La fille,
mais la fille, si ça se trouve, ça pouvait être un bébé qui n'était pas capable de.
Non, mais si ça se trouve, c'était une fille qui était folle d'indépendance. Et que sa mère voulait la masser. C'était ça le démon.
Bon, on peut se poser des questions, voilà.
C'était le démon de l'indépendance.
Non, moi je vois tout simplement que cette femme, elle était angoissée du sort de sa fille, elle s'est dit Jésus va faire quelque chose. Oui. Hein, moi je vois ça comme ça, vous aussi.
C'est pas ça, c'est cette histoire, c'est une métaphore. Cette femme lui donne une occasion. Il est très occupé. Comme vous dites, et ses disciples lui font remarquer en lui disant bon, t'as pas le temps, t'occupes pas de cette femme, etc. Et ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Il dit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Pourquoi il dit ça, on sait pas. Mais en tout cas, elle lui répond oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la tête de leur maître. Et là, elle lui donne une occasion. C'est-à-dire que là, il dit, alors Jésus, femme, ta foi est grande. Pourquoi? Parce que dans son esprit, ses disciples, c'est les petits chiens.
Ils ont fait penser à Lazare aussi.
Non, c'est elle.
Lazare qui mange les miettes, tombé de la table riche.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, si vous voulez, comment comprendre cette histoire d'enfants et de petits chiens? C'est que, si vous voulez, Moi, je le verrais plus. Je crois pas qu'il traite la dame de petit chien.
Non.
Tout à fait. Je crois que.
C'est les disciples qui sont les petits chiens.
Ah. Ça, c'est peut-être une possibilité aussi.
Elle lui donne cette occasion-là et donc il lui renvoie sa foi. Il dit, femme, tu es vraiment une de foi parce que ces gens-là me cassent les pieds, tu me donnes l'occasion de leur venir.
Oui. Ah ben peut-être. Moi, je verrais aussi bien, si vous voulez, c'est qu'elle demande une guérison physique, en fait, et que l'inquiétude de Jésus, c'est de dire, moi, je suis là pour soigner l'enfant qui est en chacun et pas le petit chien qui est en chacun. C'est-à-dire que dans chacun, il y a une dimension enfant de Dieu et il y a une dimension animale. Ça, c'est le propre de chacun. On est tous dans ces doubles dimensions, je dirais, d'esprit et de physique. Alors, contrairement à ce qu'on pense, ce qui serait plus, à mon avis, de l'anthropologie grecque, de Platon, de je ne sais pas qui, ou de Plotin, mais bref, l'idée que ce qui est sain et ce qui est bon dans l'homme, c'est l'âme. Et le corps, c'est une prison pour l'âme. Et donc, que finalement, le corps, ce n'est pas si important et qu'il faut se détacher du corps. Alors on pourrait avoir cette idée-là, si vous voulez, mais je crois qu'elle a raison de dire, même les petits chiens, c'est-à-dire notre dimension matérielle, elle est au bénéfice du salut de Dieu. Voilà,
et de la bénédiction de Dieu. Il ne s'agit pas du corps de la fille. La fille est justement possédée par un démon. Il s'agit du démon qui possède sa fille. Donc c'est bien d'une guérison spirituuelle qu'il s'agit.
Oui.
Alors il y a une dimension spirituelle.
Qui n'a pas traité les enfants furieux de malades?
Non, mais justement, je crois qu'elle présente cette maladie comme ayant une racine spirituelle.
Voilà, il y a une racine spirituelle.
Et donc,
mais c'est évident qu'il y a une racine spirituelle.
Donc c'est bien du domaine qui intéresse Jésus.
Donc c'est du domaine qui intéresse Jésus, mais il veut vérifier, je crois qu'il veut lui faire comprendre que c'est pas que une question, que voilà, que c'est d'abord une dimension spirituelle et que cette dimension, elle peut rejaillir sur le côté physique éventuellement, mais que... Le physique, c'est quand même au deuxième plan. C'est quand même, c'est pas négligeable, mais c'est quand même comme le petit chien qui ramasse les miettes. Et ça, je crois que aussi, il y a quelque chose dont on peut tenir compte, si vous voulez. C'est que la dimension physique, c'est pas non plus rien, et que même si c'est pas premier, la dimension physique est importante. C'est vrai qu'il y a des passages, si vous voulez, hein, dans Matthieu 6, dans ce même évangile, où Jésus dit « Vous occupez pas du corps, de quoi vous serez vêtus, de quoi vous serez mangés, de quoi vous mangerez, parce que ça, c'est un truc de païen de s'occuper de ça. Vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Donc sans arrêt, il essaye de refaire retourner les gens pour dire « Déjà, mettez de l'ordre dans votre cœur, dans votre foi. » Dans votre relation à Dieu, votre relation aux autres, votre relation à vous-même, déjà mettre ça en ordre. Et puis le reste, ben, ça viendra après, ça viendra comme les miettes qui tombent de la table sur les différentes dimensions de votre existence. Et je crois que ça, c'est quand même pas tout à fait faux. C'est quand même pas tout à fait faux.
C'est plus gentil quand même que de traiter les gens de petits
Voilà.
Si vous prenez l'exemple des personnes qu'on appelle aujourd'hui bipolaires, autrefois maniaco-dépressives, ce sont des personnes qui justement ont l'air de présenter deux personnalités différentes, alternatives. Bon, pour moi, ça paraît typique de ce qu'on aurait pu appeler à l'époque de Jésus de quelqu'un de possédé par un démon. Et bon, de nos jours, on cherche à soigner ça de différentes manières, avec plus ou moins de succès. Pour moi, ça, c'est typique. Cette maladie est-elle une maladie de l'âme, une maladie du corps? Aujourd'hui encore, on l'ignore.
Oui, tout à fait. C'est tout mélangé.
J'ai des exemples très proches. On ne sait pas. On ne sait pas.
Il y a aussi des gens il y a des gens qui n'allaient pas du tout au niveau psychologique. Je connaissais Louis, il avait un paroissien qui était maniaque et qui collectionnait les tringles à rideaux. Il en avait 172 dans sa cave et il ne pouvait pas s'empêcher d'aller au supermarché pour aller acheter une douzaine d'œufs. Il revient avec une douzaine d'œufs et une tringle à rideaux. Donc c'était, quelque part, c'est une folie, voilà. Et finalement, ils ont trouvé, il manquait une molécule, je ne sais plus si c'est magnésium ou je ne sais pas quoi, ils ont donné des pellicules machin de magnésium et c'est complètement réglé d'un coup sec.
Comme quoi, vous savez. C'est d'acier alors, c'est pas du magnésium.
Je ne sais pas pourquoi, enfin bref.
On n'avait plus qu'à voir que c'est un garidon.
Donc si vous voulez, au sens moral, pour la femme, on pourrait dire quoi, par exemple? Il faut avoir l'humilité d'aller, de demander. Si on ne connaît pas Jésus-Christ... On ne peut pas régler tous les problèmes du monde, mais parfois on peut faire l'intermédiaire entre sa fille, par exemple, et puis quelqu'un qui peut. Donc aller avoir le courage, oser aller demander de l'aide. Nous, on adorerait être Jésus-Christ tout le temps, capable de sauver les gens, qu'on vienne vers nous, non ?
Jamais tranquille.
Jamais tranquille.
Ça veut dire qu'il faut aller de l'avant, il ne faut pas attendre que ça vous tombe dessus.
Bah, des fois, il faut aller, c'est vrai. Moi, je puis, il faut avoir l'humilité de demander de l'aide, ce n'est pas évident.
Bah, oui.
C'est pas évident.
C'est pas bien, mais à qui ? Voilà, il faut bien tomber quoi, sur la personne.
Alors, les disciples, au point de vue moral, là, ils ne sont pas tellement bien vus, si. C'est quand même plutôt contre-exemple. Donc là, je vous parlais des hommes qui ne sont pas forcément bien vus dans l'Évangile. Là, c'est quand même pas mal, je veux dire.
Non, on ne dit pas que ce sont forcément que des hommes.
Ce n'est pas que des hommes, peut-être.
On ne sait pas, c'est les disciples.
Enfin, c'est au masculin pluriel, mais bon.
Mais quand je disais... De courtisan,
c'est normal qu'ils veulent le protéger.
Ils veulent le protéger, c'est pas son boulot. Il leur a déjà expliqué que ce n'est pas son boulot. Donc eux, ils disent, ben, on va le protéger, on va chasser la bonne femme, hystérique.
C'est
le parasitisme des cours. Oui, c'est ça.
Quand j'étais monitrice à l'école du dimanche, il y a des enfants qui étaient très choqués. Ils en avaient tiré que Jésus n'aimait pas les petits chiens.
Voilà.
Tout de même, les petits chiens, mais pourquoi pas parler comme ça des petits chiens.
Et puis pour l'enfant, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau moral? C'est que même si on peut rien et qu'on est paralysé dans son lit, que parfois le salut vient à nous sans qu'on ait rien demandé. Ça peut arriver.
Mais grâce à la maman.
Grâce à quelqu'un qui agit.
Qui agit à quelqu'un. Et ça peut arriver. Par exemple, il y a un monsieur aussi, vous savez, qui est descendu par le toit par quatre amis devant Jésus. Un passage comme ça des évangiles.
Oui.
On pourrait se dire, mais comment ça se fait, la foi de l'homme qui est sur le lit, on n'en parle pas du tout. Et Jésus, il félicite la foi des quatre garçons, quatre copains qui ont pris le paralytique pour le descendre. Mm-hmm. Des fois, oui, il faut se laisser, oui.
Mais est-ce que finalement, souvent, Jésus guérit des gens qu'il ne voit pas?
Oui, ça arrive. Oui.
La fille de Jaïr.
Il y a le serviteur du centurion. D'ailleurs, c'est un bon exemple, le centurion, si vous voulez.
Il n'est pas juif.
Il n'était pas juif, c'était un païen, de chez païen quand même, parce que pour être centurion...
Il avait construit la synagogue.
Donc lui, il était plutôt sympa comme bonhomme, c'est vrai. Mais en même temps, pour être centurion, il faut forcément respecter un peu le César comme son dieu, dans un sens. Et puis, il faut vivre de violence, donc c'est quand même un peu limité. En fait, il félicite le centurion pour sa foi, et il dit que le centurion romain, il peut très bien rejoindre avec plein d'autres, des autres nations, Abraham, Isaac, dans le royaume. Donc, si vous voulez, Jésus, déjà, un peu plus haut, c'est à quel passage, le centurion, c'est à quel chapitre? C'est au chapitre 8, Matthieu 8. Donc déjà, si vous voulez, Matthieu 8, il y avait une ouverture de Jésus à l'universel. Matthieu 12, il y avait Jonas aussi, il dit, le signe de Jonas vous sera donné. Jonas, c'est gratiné. Jonas, il est envoyé par Dieu, j'allais dire évangéliser, mais ce n'est pas le mot tout à fait qu'il faudrait peut-être utiliser, mais évangile, Ninivite, c'est-à-dire la nation la plus typique, l'archétype de la nation païenne violente. Donc ce n'est pas la femme qui ouvre Jésus à l'universel et aux autres nations, mais je crois que quand même, comment lire ça au sens moral, au sens spirituel peut-être, c'est que parfois, en chacun de nous, il y a du Jésus, il y a de l'enfant et il y a du petit chien, mais il y a du Jésus aussi dans un sens. Donc il faut en nous peut-être aller réveiller la foi, et dire à notre foi, à l'intérieur de nous-mêmes, maintenant, tu transformes ma vie, si vous voulez. Maintenant, tu arranges mon angoisse, mon manque d'espérance, mon manque d'amour, quelque chose qui ne va pas. Il faut quelque part réveiller la foi en nous et la mettre, la mettre en situation de transformer notre vie. Ça, je crois qu'on peut, si vous voulez. Donc, il peut y avoir cette dimension-là d'aller, voyez, secouer le Jésus en nous. Parce que si vous voulez, le risque, c'est qu'on pourrait dire, mais ça, c'est notre tentation à tous, de se dire, si je prie assez fort et assez longtemps, à ce moment-là, Dieu va finir par se décider, comme Jésus, de faire ce que je veux.
Pour quelqu'un d'autre.
Pour quelqu'un d'autre, ou pour moi-même. La bonne volonté de Dieu n'est pas en cause, si vous voulez. Ça, c'est le fond même de la grâce. Il ne s'agit pas de convertir Dieu à l'amour ou à machin. La question, c'est que Dieu, il demande pas mieux finalement que d'apporter le salut, la paix et l'amour entre les gens. La question, c'est que nous faisons obstacle. Donc la question, c'est de nous convertir, nous, et de convertir le monde. C'est ça la question. Dieu, lui, il est à fond.
Est-ce qu'on ne peut pas aussi lire le récit comme si chacun de nous était les quatre personnes à la fois?
Ah ben tout à fait.
L'enfant qui a besoin d'aide, la mère qui croit qu'elle va l'obtenir, les disciples qui croient qu'elle ne l'obtiendra pas.
On est tout ça.
On est tout ça à la
fois. Et parfois, l'enfant de Dieu en nous est abandonné, souffrant, et puis personne ne s'en occupe. À ce moment-là, il y a une part de nous-mêmes peut-être qui doit prendre ça, cette souffrance-là en compte et la dire, peut-être oser la dire. Voilà.
Voilà.
Peut-être oser se dire, oui, là, il y a quelque chose qui, en moi, manque de paix et est cruellement tourmenté.
Oui.
Alors, moi, je ne crois pas à l'existence des démons, des diables qui nous posséderaient, comme s'il y avait des créatures intermédiaires mauvaises. Non. Le démon, c'est une part de nous-mêmes, c'est quelque chose en nous qui n'est encore pas bien grandi ou qui a été blessé ou qui... Vous voyez, c'est... Mais, bon, c'est... Oui, donc, je crois que vous avez raison, on est tout ça. Et puis en nous, il y a les disciples qui disent mais non, mais non.
Il y a la partie qui n'ose pas, qui se dit je vais te déranger.
Voilà. Donc ça, c'est au sens spirituel, vous voyez. Alors on est pour nous-mêmes, si vous voulez, on est les quatre personnages, mais aussi pour nos proches. Alternativement, il faut avoir l'humilité d'être celui qui va se laisser aider par le Jésus qui est dans l'autre. Avoir l'humilité de dire, par exemple, je ne sais pas quoi, en couple, en famille, avec ses amis, oui, j'ai besoin de toi et j'ai besoin que quelque part tu agisses pour me donner une paix, me donner quelque chose, une croissance aussi, pour une nourriture pour l'enfant ou le petit chien qui est en moi. Et puis, il faut savoir être, parfois, le Jésus pour l'autre, mais parfois seulement celui qui va faire le lien, la jonction. Et puis, pas être trop le mauvais disciple. En même temps, les disciples, c'est pas très bon ce qu'ils font pour la femme. Mais en même temps, ils sont quand même collés à Jésus. C'est quand même déjà mieux que rien. Et ils ont une chance, là, d'apprendre quelque chose et puis de progresser.
Ils le protègent, ils veulent le protéger.
Ils veulent le protéger. Bon, peut-être à mauvais escient. D'abord, il est assez grand pour savoir ce qu'il a envie de faire.
Ils ne savent pas.
Voilà. Mais bon, vous voyez, dans tout ça, de toute façon, on peut... vous voyez, ces textes, il n'y a pas une seule lecture. Et moi, finalement, j'ai besoin, on a tous besoin de la lecture des autres pour essayer d'enrichir, de renouveler notre point de vue, d'interpeller notre point de vue aussi. Sur ce genre de texte, et puis y découvrir quelque chose de neuf, peut-être, pour notre existence.
Merci en tout cas pour cette grille d'interrogation, question pour la lecture.
Alors ça, c'est très classique. Hein.
C'est
du classique, de chez classique.
J'aime beaucoup ce classique.
Oui.
C'est une méthode intéressante.
Ça peut aider, oui. Ça peut aider. Ça peut aider. Alors, est-ce que vous avez encore des remarques, des interrogations
Une interrogation qui est...
Oui.
En fait, le christianisme, je le vois naître donc, sous la domination romaine. Et j'imagine, enfin, il me semble que si le christianisme a pu naître, c'est grâce au système romain.
Ah ben oui. Oui. Grâce au système romain, la paix romaine, mais aussi grâce au... Parce que la paix romaine facilitait les échanges, le commerce, et s'il bougeait beaucoup plus, alors que les voyages étaient extraordinairement plus difficiles que maintenant, quand même, il bougeait énormément. Il y avait beaucoup de liens, beaucoup de passages.
Et puis il y avait cette acceptation de toutes les religions des différents peuples.
Il y avait cette liberté. Bon, par rapport à cette liberté, les chrétiens vont avoir la difficulté, si vous voulez, c'est que le monothéisme strict pose problème, c'est qu'il n'est pas forcément très tolérant, le monothéisme strict. Bon, en l'occurrence, au début, il l'était assez. Il est devenu intolérant qu'après Constantin, à la fin du IVe siècle.
Avec Théodose,
oui. Oui, oui. Mais par contre, refuser...
C'est Justinien.
Une nouvelle religion, c'était bien répandu.
Oui, ça.
Pour acquérir le pouvoir. Et les Théodoses après, on a fait, inciter, d'ailleurs, il y a eu une transformation de l'Église à ce moment-là. L'Église, sa profonde pouvoir s'est un peu transformée. Et avec Théodose qui est devenu un peu le sujet de cette église. L'église s'est absolument mêlée au pouvoir.
Oui, ce qui n'est jamais tellement génial. Alors qu'on le voit avec Paul, il avait une conscience, lui, d'un monothéisme très strict, bien sûr, comme juif. Mais quand il arrive à Athènes, il dit, finalement, puisqu'il y a un seul Dieu, le Dieu que vous adorez, forcément, c'est le seul Dieu unique. Donc le monothéisme, c'est pas forcément intolérant en disant, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le mien, et tous les autres dieux, c'est de la blague. C'est pas forcément ça.
Oui, voilà, c'est récupérateur.
Le Dieu de l'autre.
Ça peut être très ouvert, puisque tout le monde adore un Dieu, tout regard porté vers le haut converge vers le Dieu unique, et point, c'est tout. Donc au contraire, ça peut être extrêmement ouvert, le monothéisme. Ça dépend comment on le vit.
Ça peut être de la récupération aussi, de dire ce que vous croyez, c'est la même chose que moi.
Alors, c'est pas forcément la même chose, mais on peut dire ça converge.
Ça peut être ça aussi.
Oui, alors il ne faut pas aller non plus jusque-là.
Il faut être prudent.
Mais enfin bon, il y a souvent cette image de la montagne, c'est-à-dire qu'on est tous au pied d'une montagne, on regarde vers le haut, et finalement, on se retrouvera, quel que soit le chemin, on se retrouvera en haut, au sommet de la montagne.
Comme une nuance entre universalisme et absolutisme.
Oui.
C'est pour ça que je disais que je préférais le mot différenciation plutôt qu'universalisme. Oui. C'est l'ouverture vers la différenciation, c'est-à-dire de permettre de s'organiser tout en ayant la même hauteur de vue, si je puis dire.
Oui, voilà, c'est ça.
Parce qu'on ne possède pas, personne ne possède la vérité. C'est ça qui est dangereux.
Parce que
on veut imposer aux gens sa vérité, qui n'est pas forcément la vérité.
Oui, parce que si vous voulez, c'est comme pour un pied d'une montagne, il y en a un pour aller au sommet, il faut aller vers le sud, ceux qui sont au nord de la montagne. Et puis ceux qui sont au sud, il faut qu'ils aillent vers le nord pour aller vers le sommet de la montagne. Donc ceux qui diraient, pour aller vers le sommet, il faut aller absolument, j'en suis absolument persuadé, il faut absolument aller vers le sud, c'est un peu nul, parce que ceux qui sont dans une autre situation, ils vont rater la montagne. Voilà, donc en fait, c'est plutôt, dans l'évangile, c'est plutôt une vérité de relation, une vérité de cheminement.
Parce que ce qui s'est passé aussi bien en Allemagne que en Allemagne, mais surtout en France, c'est à travers la naissance de la réforme, c'est une lutte contre l'absolutisme.
En même temps, Luther, dans la révolte des paysans, il dit, écoutez...
Je ne m'occupe pas de ce qui se passe.
Non, mais Luther, il était soutenu par son land, c'était des landes contre le land voisin, de toute façon. Donc c'était une situation politique tout à fait différente.
Et puis Calvin, le système de Calvin n'était pas tellement souple dans la
jeunesse. Il n'était pas souple, Calvin.
Il y a une deuxième chose qui a aidé le développement du christianisme, à mon avis, donc c'est cette paix romaine, ces communications, cette ouverture à des religions différentes. Mais il y a aussi la philosophie grecque, qui était un outil de pensée, de réflexion, de raisonnement, qui a pu permettre vraiment de penser la foi chrétienne.
Mais Justinien a fermé l'école d'Athènes, Justinien.
Et beaucoup de juifs.
C'était quand même au 5e siècle déjà.
Oui, mais quand même, ça a beaucoup aidé à élaborer. Et peut-être que Paul, justement, qui était en même temps un philosophe grec et en même temps un théologien juif, c'est lui qui a pu commencer à vraiment réfléchir, formaliser, mais Jean aussi, si
entre
vous voulez.
La sagesse et la...
Avec l'union de la sagesse, de la raison et de la foi. Alors le problème, c'est qu'on s'est laissé un peu contaminer par aussi des catégories, une anthropologie, une théologie grecque, un peu trop, si vous voulez. Avec un dieu Zeus qui est très loin au-dessus dans le panthéon, qui est un peu à craindre, si vous voulez. Et ça a un peu influencé la théologie chrétienne, un peu plus tardive que celle des évangiles. Et aussi le soupçon que le corps, ce serait pas bon, qu'il faut mater le corps, le culte de la virginité, c'est venu quand même plus tardivement et sous influence, à mon avis, de pensée et orientale, qui n'était pas tellement biblique. Donc peut-être aussi la place de la femme, ça c'est peut-être plus le machisme ambiant qui a simplement repris ses droits pour que les choses soient bien en ordre. Voilà. Enfin bon, donc on peut se retrouver, pour ceux qui le désirent, mercredi prochain, avec, qu'est-ce que c'est comme petit planning, j'ai noté dans mon truc,
c'est Léa et Rachel.
Donc on verra...
Quel texte, s'il vous plaît?
C'est les textes avec Léa et Rachel, c'est quel passage dans la Genèse,
Ça doit être Genèse entre 24 et 32, peut-être, non? Bon. Ben écoutez, avec joie, merci d'être venu, nous avoir rejoints. Merci.